Bonjour Jacques Munier.
Bonjour Clara Coquerel.
Vous êtes là pour le journal des idées à 6h40 tous les jours sur France Culture. Alors Jacques, on le sent avec la météo et dans les cuisines. L'automne est entré dans sa phase préhivernale de saison au fourneau. Voici donc Jacques, quelques idées gustatives pour agrémenter le week-end qui approche.
Voilà, le journal des idées gourmandes pour aujourd'hui. Et oui Clara, c'est la saison des coins. La revue 180 degrés, la température idéale pour enfourner. L'annonce en couverture. Reportages et recettes de la courge à la figue ou la châtaigne, confiture d'automne, figue au bon, ces petits biscuits garnis de pâtes de figue. Et pour les plats de résistance, résistance au froid, à la morosité, poulet, miel, moutarde et patates douces, rôties à la cannelle, toutes les recettes donc à retrouver dans la revue. Patidou, un cousin du potimarron au haddock, galette de merguez et coin au four, tout un poème. Le coin est donc à l'honneur, qui sert aussi à faire la bandoline dont se servent les coiffeurs pour lisser les cheveux, précise Alexandre Dumas dans le Grand Dictionnaire de Cuisine, mêlant dans le souci de soi l'élégance et la gastronomie. C'est dû aux propriétés gélifiantes de la pectine, abondante dans le coin, également exploitée dans les pâtes de fruits ou les gelées. Le coin ne se mange que cuit, et pas qu'un peu, ce fruit cabossé, couvert d'une étrange peau duveteuse, à la chair dur et âpre, ne révèle sa sensualité capiteuse qu'après une longue cuisson. Aussi à l'aise dans les plats salés que sucrés, il oppose une farouche résistance à qui veut se le faire. Le pelé et l'épépiné n'est pas sans risque, un inconvénient certes lié à sa dureté, mais aussi peut-être à l'ivresse qu'il ne manque pas de provoquer, comme en atteste l'expression « bourré comme un coin ». La transition est tendue comme une perche pour évoquer une autre publication de cette revue adossée au titre jumeau, 12,5 degrés, et là on passe subrepticement de la température au degré d'alcool. Le traité de jajalogie, manuel indispensable des libres buveurs dû à Pierrick Jégu. Au sommaire de la vigne au vert, les fondamentaux du vin naturel, pour ceux qui apprécient la tonalité un peu rugueuse des vins bio, c'est une encyclopédie de la production, de l'élevage à la récolte et jusqu'à la vinification. Vous saurez tout sur la biodynamie avec ses inflexions et ses ressources. Pour donner naissance à des vins représentatifs de leur terroir, il faut voir beaucoup plus loin que son lopin de terre, envisager la vigne dans son environnement global et renforcer ses échanges avec ses sources d'énergie que sont la terre où elle plonge ses racines et le ciel avec qui elle dialogue grâce à son feuillage. On nie les pesticides, les herbicides, les engrais chimiques, bonjour la lune et les influences cosmiques. Un calendrier spécifique aide les vignerons à déterminer les dates les plus propices à leurs différentes interventions, comme dans le Vieux Monde. On raconte que les moines, principaux contributeurs de notre géographie vinicole dans l'ancien temps, goûtaient de leur bouche la terre où ils avaient arrêté leur choix pour vérifier leur intuition. À l'heure où la vigne s'apprête à entrer en dormance et avant de passer au chapitre essentiel de la vinification, examinons cette fin de cycle. La vigne, alors, consacre son énergie au stockage de réserves nutritives dans ses bois. Au niveau du pétiole, se forme un bouchon de liège qui isole la feuille du reste de la plante. La sève ne circule plus jusqu'à la feuille et rend impossible la synthèse de la chlorophylle, responsable de sa couleur verte, d'où les teintes chatoyantes, jaune, orangé ou rouge, des pigments masqués par la chlorophylle et qui offrent ce spectacle rubicon dans tous les vignobles de l'Hexagone avant que les feuilles ne tombent et que la vigne se mette en hibernation jusqu'au printemps suivant. Entre-temps, juste après les vendanges, commence la vinification de la cuvée en grappe entière si le vigneron estime que la rafle, la partie végétale de la grappe, est assez mûre pour prêter de la structure au vin sans l'affliger de verdeur. Pigeage, remontage et délestage permettent de renforcer le contact entre le mou et le chapeau de marc qui se forme en haut de la cuve. Piger, c'est-à-dire casser le chapeau de marc pour l'enfoncer dans le mou. Remonter, c'est soutirer le jus en bas de la cuve pour en arroser le chapeau par le haut. Délester, c'est récupérer l'ensemble du mou pour le transvaser dans une autre cuve afin de laisser le chapeau de marc s'égoutter, puis lui envoyer le mou pour qu'il remonte dans la cuve. Le choix, la fréquence et l'intensité de ces opérations dépendent de la volonté du vigneron d'extraire plus ou moins de couleurs et de matières. C'est le départ du processus de vinification qui donne au jus son caractère. J'ai simplifié car d'autres choix s'imposent en amont, au foulage par exemple, qui libère le jus et le met en contact avec les levures présentes sur la pellicule des raisins en démarrant la fermentation alcoolique. En bout de course arrive la dégustation, non sans avoir respecté l'étape de la conservation, mais, dit notre auteur, la religion du vin de garde est aussi absurde que la tendance actuelle à boire des vins très jeunes, car la capacité d'un vin à vieillir est liée aux qualités organoleptiques et à l'équilibre global de la matière première, le raisin. Bref, sauf à faire monter les enchères, quand le vin est tiré, il faut le boire.